Il est 9h41, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Les Républicains organisent leur première primaire. La bataille s'avère sévère, acerbe, virulente. Face à la division de son camp, le Figaro doit-il choisir sa droite ? L'occasion d'interroger la ligne éditoriale de ce grand quotidien. La droite qu'il incarne aujourd'hui n'est plus celle qu'il incarnait il y a quelques années. Comment sa ligne éditoriale a-t-elle évolué ? Sur le web et sur le papier, quels sont les combats les plus visibles dans lesquels s'engage le Figaro ? Quelles sont les plumes et les visages qu'il met désormais en avant ? Bonjour Alexis Brézé.
Bonjour.
Directeur des rédactions du Figaro, que les auditeurs connaissent bien car ils vous entendent débattre avec Laurent Geoffrin le dimanche matin chez Patricia Martin. Allez, bienvenue à vous et bienvenue à vous tous. Hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Pour les vieux qui regardent cette vidéo, Snapchat, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui permet d'envoyer des messages, des photos ou des vidéos qui durent que quelques secondes. Même si vous êtes vieux, vous pouvez la télécharger, hein, il suffit de taper Snapchat, F-A-C-E-B-O-O-K, Snapchat, et c'est bon. La technique anti-vieux.
Alors la technique anti-vieux, ça c'est Cyprien, mais plus de la moitié, sachez-le, des 15-24 ans utilisent Snapchat. C'est donc le réseau social que les grands médias lorgnent pour toucher les ados via, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, une sorte de kiosque à journaux que propose l'application Snapchat Discover, pour lequel les médias sélectionnés produisent du contenu spécifique. C'est hyper bien foutu, c'est plein de photos, c'est plein de vidéos. Ça commence aujourd'hui en France et évidemment ça fait l'événement. Les élus pour figurer dans ce kiosque virtuel sont Le Monde, L'Équipe, Paris Match, Cosmopolitain et puis aussi des sites d'info que sont Vice, Melty, Tastemed. Mais quand même, Le Monde, L'Équipe, Paris Match, Cosmo et pas Le Figaro, Alexis Brézé, pourquoi ?
Bah parce qu'on n'a pas choisi de le faire, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas demain. On est présent sur Snapchat, on a des comptes Snapchat, il y a des trucs assez rigolos.
Oui, vous faites des petites vidéos qui sont
exactement.
Là pour rattraper
c'est
les mots.
Les jeunes de la rédaction qui font des trucs sur l'actu très marrants. Donc on a du Snapchat, on a de l'Instagram, on est sur Facebook, etc. Ce projet-là est un projet intéressant. Il se trouve que là, on avait d'autres priorités. C'est très consommateur en moyens humains.
C'est des équipes dédiées.
Donc là, nous, on a en ce moment un autre projet qui rejoint un peu ça, qui est un projet de plateforme vidéo destiné à irriguer le site, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et compagnie, et puis à être diffusé en flux sur notre site et j'espère sur les box. Cette plateforme vidéo, qui n'est pas une chaîne de télé à l'ancienne, mais qui aura aussi la forme d'un flux, elle empruntera beaucoup à ces codes, à ces nouveaux codes de la télévision, enfin différent de la télévision d'hier, mais c'est code des nouveaux réseaux.
Alors qui va la produire ?
Comment ?
Qui va la fabriquer ?
On est en train de constituer une équipe, c'est un très gros boulot. On a un responsable qui s'appelle Benjamin Vincent, qui est donc on constitue des émissions, des concepts. Enfin, c'est très amusant. Nous on vient quand même de l'écrit. On est passé à la vidéo et on a beaucoup de vidéos produites sur le site. On a déjà un studio de télé que vous connaissez sûrement en bas dans le journal. On est en train de construire un autre grand studio qui va faire 80 mètres carrés. On construit un petit studio au cœur de la newsroom pour l'info en direct. Donc, on a un très gros projet qui rejoint cette préoccupation des nouveaux langages, des nouvelles écritures vidéo. Donc, on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà.
Et puis, un jour ou l'autre, votre actionnaire pourrait racheter iTélé si Vincent Bolloré voulait la vendre.
Si vous voulez lui faire des propositions, franchement, n'hésitez pas.
Alors, une dernière question avant de passer vraiment au cœur de cette interview sur votre positionnement politique. On va parler investigation.
Mais Annette, tous les grands journaux, le Washington Post, le Guardian, l'Asahi Shimbun, mais j'en passe, livrent ces informations comme s'ils en étaient les détenteurs.
Ben, c'est un peu vrai dans la mesure où, devenant partenaires du consortium, ils apportent le résultat de leurs propres investigations et participent à la reconstitution du puzzle. Par ailleurs, ils se font la chambre d'écho de la grande enquête entraînant ou pas, selon les pays, des prolongements judiciaires et parfois législatifs.
Voilà, alors la grande enquête, c'est celle qui a permis de révéler l'affaire des Panama Papers, celle qui a permis de révéler l'affaire des SwissLeaks, évasion fiscale dans laquelle la banque HSBC était mise en cause. Le Figaro est doté d'une rédaction puissante. Elle fait partie aujourd'hui des rares journaux qui ont les moyens. Pourquoi est-ce que vous ne participez pas à ces grandes enquêtes financières internationales ?
Eh bien, on y participe, on n'a pas participé à celle-là, parce qu'on n'est pas dans ce groupe-là. Mais nous, on est dans un groupe international européen qui s'appelle l'ENA, dans lequel il y a El País, Die Welt, La Repubblica. On a fait des enquêtes. Alors, elles ont eu moins de retentissement que celle-là, notamment une sur les intérêts russes en Europe. Mais voilà, mais on est en étroite collaboration avec tout un tas de titres européens et pour travailler sur des enquêtes transversales.
Voilà, et c'est devenu totalement indispensable aujourd'hui.
C'est important, c'est compliqué. Hein. La collaboration, déjà, vous connaissez ça, à l'intérieur d'un journal entre services, bon, mais entre journaux, c'est pas simple, mais on essaie d'avancer, c'est quelque chose de nécessaire qui peut produire des résultats très intéressants.
Et qui est le seul moyen aussi de peser dans la grande discussion mondiale de l'information.
C'est finalement un des moyens. Les bonnes enquêtes faites par une rédaction sont aussi un moyen. Après tout, il y a aussi des on peut sortir des trucs comme d'autres journaux français ou étrangers. Et puis après, c'est repris. Donc il n'y a pas un seul moyen, mais c'est un des moyens. Oui, c'est vrai.
Allez, politique maintenant.
Débattons du fond des choses. Ne nous opposons pas. Quand François Fillon et Jean-François Copé sont affrontés, les deux se sont retrouvés dans la situation que l'on connaît. Ceux qui diviseront seront balayés.
À quoi ressemble, Alexis Brézé, la vie d'un service politique dans un grand quotidien droite comme celui du Figaro, au moment où la droite justement se divise ?
C'est très stimulant.
Oui.
C'est très stimulant et c'est, professionnellement, c'est très amusant parce que plus il y a d'actu, à droite ou à gauche, plus les journalistes politiques et les journalistes en général sont contents parce qu'ils ont de la matière, ils ont des trucs à raconter. Donc oui, c'est stimulant.
Après,
Le Figaro n'est pas un journal de parti, Le Figaro n'est pas un journal de chapelle. Hein. Donc, on traite la droite, on traite la gauche, on traite le centre, on traite le Front National, on traite tout le monde.
Mais là, il faut traiter la droite.
Ah bah oui, ça c'est sûr.
Il faut traiter toute la droite. Vous parlez à un électorat qui se divise en même temps que les candidats se divisent. Est-ce que, du côté des politiques, c'est pression tous azimuts? Chaque candidat, on le sait très bien, et puis le traitement qui est réservé à l'autre, ça réclame, il y a une guerre de communication politique en coulisses.
Oui, mais ça, c'est dans tous les journaux, c'est toujours été comme ça. C'est le boulot du directeur de la rédaction, c'est le mien, d'écouter les uns, d'écouter les autres, et puis voilà. La question, c'est celle de l'équilibre. C'est pas de dire on va donner un titre en haut à l'un, et puis le lendemain un titre en haut à l'autre, et puis on va pas mesurer la taille des photos. Tout ça n'a aucun sens. On n'est pas là. On n'est pas nous. Presse écrite, soumise
autant de paroles
et à la tutelle pointilleuse et à mon sens assez absurde du CSA, à la différence des médias audiovisuels. On ne va pas se mettre sur la tête des contraintes. Donc on n'est pas dans une logique d'équilibre, on est dans une logique d'honnêteté, de traitement journalistique. On traite les différents candidats en fonction de leur actu. Et puis après, chacun a son actu à son tour, et donc à l'arrivée, on parle de tout le monde. Mais on n'est pas
alors,
à mesurer...
Alors, vous avez écrit, Alexis Brézé, la suite d'Étienne Moujotte en 2012 à la tête des rédactions du Figaro. Comment définiriez-vous la droite qu'il incarnait, lui, et la droite que vous incarnez-vous ?
Mais on incarne... Étienne Moujotte, pas plus qu'Alexis Brézé, pas plus qu'avant Nicolas Bétou ou Jean de Belot, n'incarne une droite ou n'incarne le Figaro.
Ah bon ?
Mais non, le Figaro, c'est une institution qui va avoir 200 ans.
Mais dont la ligne éditoriale a beaucoup bougé dans l'histoire du Figaro.
Oui, mais donc...
Alors, vous l'avez fait évoluer.
Installer ça dans un mouvement historique, mais le titre est beaucoup plus fort que les différents directeurs, si prestigieux soient-ils.
Vous avez fait évoluer la ligne éditoriale du Figaro dans quel sens ?
Je crois que ce que j'ai voulu en arrivant, parce que ça c'est une intuition à laquelle je crois absolument, c'est insister sur le fond, sur la densité, sur l'enquête. Je crois que par rapport à ce dont on parlait à l'instant, les réseaux sociaux, l'internet,
il faudra aussi parler... Mais moi je vous parle de ligne éditoriale, de famille
idéologique. Oui, mais attendez, pour un journal, il n'y a pas que l'idéologie dans un journal. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on produit. Et moi, là, ce sur quoi j'ai insisté, c'est aller au fond des choses. Notre différence, c'est d'en dire plus. On est de la presse payante par rapport à de l'information gratuite. Et si on veut que les gens payent, il faut leur en donner plus. C'était ça, moi, de mon
obsession. Est-ce que Étienne Moujotte n'avait pas une ligne, on va dire, d'une droite libérale à tous les sens du terme, c'est-à-dire libérale sur le plan économique, mais aussi sociétale ? Est-ce que vous incarnez pas une droite, on va dire, plus traditionnelle, plus conservatrice, telle qu'elle s'est exprimée au moment du mariage pour tous ?
Ça, c'est à vous de le dire. Moi, je pense pas que le Figaro ait diamétralement changé. Les journalistes n'ont pas changé. Et c'est toujours les mêmes qui écrivent les articles. Donc, il n'y a pas un chef qui dit « toi, tu fais ça ». Ça n'existait pas. Vous connaissez c'est un petit peu le Figaro et vous connaissez les médias en général.
Justement, je suis bien placée pour constater les changements.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Je vous fais écouter justement. Alors, les gens, ils sont toujours les mêmes, mais il y a quand même des nouvelles têtes qui émergent au Figaro et que vous mettez en avant.
Moi, personnellement, je considère que c'est un homicide et qu'on décide arbitrairement, par un compromis politique, de trancher entre deux vies. La vie de la mère et la vie d'un enfant, une vie à venir. Par exemple, vous savez très bien que le délai sur lequel on peut recourir à un avortement est complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... justification en droit de dire au bout de tant de semaines un être humain devient un être humain et avant il n'est pas un être humain, donc ce compromis il est arbitraire.
Eugénie Bastier, qui était notre invitée récemment, avec qui on a beaucoup discuté ici dans l'Instant M. Donc vous poussez une très jeune journaliste du Figaro.fr, elle fait partie de votre rédaction. On va dire que c'est un nouveau visage pour une vieille France. Elle n'aime pas le mot réac, alors j'essaye de trouver des mots qui lui conviennent.
Une vieille France assez
remontée, elle est très jolie, elle est très culottée, elle est hyper active sur les réseaux sociaux, les télés se l'arrachent. Est-ce que la rédaction du Figaro se reconnaît en Eugénie Bastier?
Eugénie Bastier, c'est une jeune journaliste pleine de talent, de tempérament, vous l'avez dit, et qui ira loin. Mais c'est le boulot du Figaro de faire émerger des jeunes journalistes. Ouais. Et il y en a plein d'autres. Il y a Marion Moore qui vient d'arriver à la politique, Alexandre Devecchio, Mathilde Siron, enfin, il y en a plein. Donc nous, on essaie, on a nos, entre guillemets, vieux journalistes dont je suis, et puis le boulot pour l'avenir, c'est de faire émerger des jeunes. Mais on a toujours eu des journalistes qui pensaient des choses différentes au Figaro. Je veux dire, Éric Zemmour, c'est pas Guillaume Tamar, Rioufol, c'est pas Gaëtan de Capel, Natacha Polony, c'est pas Paul-Henri Dulimbert. Donc, il y a une diversité dans un journal.
Alors,
c'est normal.
Justement, la vraie question, c'est comment coexiste cette diversité au sein du Figaro tel que vous le dirigez aujourd'hui? Vous avez donné naissance au Figaro Vox. On va essayer de décrypter un peu ce qu'il y a derrière les noms que vous avez cités. Ce qu'on appelait avant les pages débat et opinion, traditionnellement dans un journal, c'est dirigé par Vincent Trémollet de Villers, auteur d'un ouvrage consacré à la manif. Pour tous, c'est Alexandre Devecchio qui est un des jeunes journalistes que vous venez de citer. Avec des chroniques régulières, Polony, Zemmour, Yves de Kerdrel, le patron de Valeurs Actuelles. Énorme succès, énorme visibilité, le Figaro Vox. C'est le lieu d'expression d'une droite assez dure, assez souverainiste, souvent virulente.
Non.
Non, d'accord.
Non. C'est d'abord la preuve, et c'est ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand on fait de la qualité et du fond, y compris sur Internet, ça marche. C'était pas gagné. Moi, je me souviens des pas où vous disiez, faut que des petits trucs, des choses pilulées, en quelques lignes.
Non, 5 millions de pages vues.
C'est un énorme succès. Donc, ça prouve que
300 000 exemplaires pour le Figaro papier, 5 millions de pages vues pour le Figaro Vox.
Évident. Donc,
30
ça prouve que la qualité, ça
paie.
Après, c'est un lieu de diversité. Il y a tous ceux que vous avez dit, c'est évident. Mais on a de tout. Figaro Vox, on a mis en avant des libéraux libertaires, libéraux sur tous les plans, Gaspard Koenig, Mathieu Laine, qui maintenant est un conseiller de Macron, Bouzou, Rivaton, ils ont leur ronde serviette au Figaro Vox. On a des conservateurs, on a Agnès Verdier-Moulinier qui est à la fois libérale et conservatrice, on a des vrais conservateurs, Mathieu Bock-Côté qui est un Québécois absolument génial, il est arrivé dans le débat grâce au Figaro Vox.
Grâce au Figaro Vox, où il a publié
des
tribunes pour défendre
Éric
Zemmour notamment.
Voilà, Laurent Bouvet, Brustier, Bouvet l'insécurité culturelle.
Alors par exemple, je vous donne des exemples, Alexis Brézé. Le Figaro Vox, par exemple, a produit au moment du Brexit beaucoup de papiers, de plumes qui vomissent l'Europe et la finance. Et il en reçoit régulièrement, il en publie régulièrement. Alors que pendant ce temps-là, le Figaro Économie, c'est le journal des banquiers et de la multinationale précisément.
Vous faites une opposition qui repose sur deux caricatures. D'abord, dans le Figaro Vox, on ne vomit pas.
Non, il y a eu beaucoup de papiers.
Il y a des papiers, mais c'est des analyses, c'est des points de vue et tous les points.
Des papiers extrêmement virulents pour dire le Brexit.
Oui, mais parce que ça vous
dépêche. C'est bien
vous
fait pour ces banquiers. Bon. Ah oui, oui, non, c'était très violent. Et puis c'était des papiers qui assumaient d'être virulents.
Je pense que la façon dont vous décrivez le Figaro Vox n'est pas juste, mais celle dont vous décrivez le Figaro quotidien n'est pas juste du tout. Regardez les papiers de Jean-Pierre Robin sur le dernier bouquin de Stiglitz. Vous verrez qu'il est très nuancé sur la question de l'euro. Regardez les éditos de Gaëtan de Capel sur la question de l'Europe. Il voit bien les défauts du système et il dit il faut quand même arriver à le sauver. Dans les deux cas, c'est des points de vue. C'est pas on vomit ou on est le suppôt des banquiers. C'est une double caricature que vous faites.
Oui, oui. On peut dire un petit mot d'Éric Zemmour qui a encore fait parler de lui cette semaine.
Allez.
Est-ce que vous estimez, pour autant, que Rachida Dati, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze, Omar Sy sont moins français que vous?
Pour le corps social, c'est-à-dire pour comment ils sont reçus par la population, par le peuple qui est là depuis 1000 ans. Alors oui, ils sont moins français que moi parce que moi, mes parents, et je les en bénis, ont fait l'effort de me donner un prénom dans le calendrier, comme on disait, c'est-à-dire français.
Voilà, donc ça c'est la dernière sortie d'Éric Zemmour. Quoi qu'il dise, il demeure pour vous une voix du Figaro.
Mais bien sûr, c'est une
vitrine,
des voix des Figaro. C'est une
drapeau,
des voix du Figaro. Mais comme je vous disais, Tabar est une des voix du Figaro. Paul-Henri Dulimbert est une des voix du Figaro. J'espère Alexis Brézé est une des voix du Figaro. Guillaume Roquette est une des voix du Figaro. C'est la diversité des points de vue. Heureusement.
Heureusement. Quand la diversité est condamnée en justice pour incitation à la...
Bon, je ne veux pas revenir sur les affaires judiciaires qui sont compliquées. Moi, je crois que, en tout cas, si on s'agit d'Éric, il n'a jamais été condamné pour des choses qu'il a écrites dans le Figaro. C'est ça qui est important. Le Figaro, on est responsable de ce qu'on publie. On n'est pas responsable de tout ce que disent tous les journalistes du Figaro qui pensent des choses différentes et ce qu'ils disent à l'extérieur du Figaro.
Et ce soir, vous organisez à l'extérieur du Figaro, à la salle
Gaveau. Non, à l'extérieur du Figaro, mais c'est le Figaro qui organise une grande soirée une grande rencontre. Il y aura, la salle est pleine, il y a 800 personnes, il n'y a plus de place, donc
c'est
je ne fais pas d'appui. Ce soir, c'est Éric Zemmour. On aura après Luc Ferry, on aura Sylvain Tesson dans quelques jours. On avait eu Lucini l'année dernière et bien d'autres, et Alain Finkielkraut. Et c'est un grand succès. Ça prouve quoi ? Ça prouve que le Figaro est capable de fédérer autour de débats d'idées. C'est ça qui est important pour ce journal. Une de mes ambitions, c'était ça, c'est de faire réexister et reprendre l'ascendant, c'est un peu prétentieux, mais l'ascendant dans le débat des idées. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, avec tout le travail qui a été fait par toute la rédaction, le Figaro est aujourd'hui un des lieux, j'espère plus qu'avant, où s'exprime le débat d'idées, oui.
On est bien d'accord en même temps que dans sa version numérique, et on disait les chiffres écrasants du numérique, ces tribunes d'opinion, finalement, quand elles sont là, sur le fil, elles sont mises au même niveau que les papiers de la rédaction.
Oui, mais elles sont indiquées que c'est indiqué que c'est des opinions. On dit c'est Figaro Vox, on donne le nom de l'auteur. Comme dans un journal, il y a les pages débat et opinion dans lesquelles vous avez à la fin Jacques Julliard. Jacques Julliard écrit dans le Figaro. Mm-hmm. Alors vous allez me dire c'est quoi ? C'est la droite souverainiste et je sais pas quoi ? Non, bon, ben voilà. Je crois à l'intelligence du débat. Il faut, mais c'est pas un hasard, je pense, si aujourd'hui on ferait Julliard, Finkielkraut, qui hier s'exprimait pas dans le Figaro, aujourd'hui s'exprime dans le Figaro, Nora, Gaucher, Rémi Brague, plein d'autres, Pierre Manant, ils s'expriment aujourd'hui dans le Figaro. Quand ils sortent un livre, c'est dans le Figaro qu'ils vont publier les bonnes feuilles. Bah, c'est peut-être qu'on fait du
pas
bon
seulement.
Boulot. Pas seulement, quand même souvent, vous aurez remarqué.
Pas seulement. Et monter au créneau systématiquement chaque fois que Éric Zemmour déclenche un tollé avec ce genre de sorties, des sorties qui sont pas malines, en matraquant une idéologie multiculturaliste que vous dites, que vos plumes dites en fin de pouvoir ou fascisante, ou en matraquant ce que vous appelez l'antiracisme. Est-ce que c'est pas là pour le coup faire du débat d'idées et de la fracture idéologique assez gratuite?
Moi, je m'attraque rien. Là,
C'est vos plumes qui.
Éric Zemmour dit ce qu'il pense, Polony dit ce qu'elle pense, Tabar dit ce qu'il pense, et plein d'autres disent ce qu'ils pensent, et Stéphane Durand-Soufflant dit ce qu'il pense. Mm-hmm. Tous ces gens-là ne pensent pas la même chose. Et ils s'entendent très bien dans les couloirs, ils s'entendent très bien. Ça prouve qu'on peut faire vivre la diversité. C'est un peu mon boulot.
C'est un peu votre boulot. Alors, Valeurs Actuelles a triplé son audience en quelques années. C'est vraiment l'un des phénomènes les plus marquants et les plus signifiants du marché. Alexis Brézé, est-ce que Valeurs Actuelles aurait pris la place du Figaro Magazine de la grande époque? De l'époque R100.
Écoutez, moi je connais très bien Valeurs Actuelles, c'est une maison où j'étais et que pour qui j'ai de l'affection. Après, je ne vais pas commenter. Ils ont fait un choix qui n'est pas celui qu'on a fait nous au Figaro Magazine. Le Figaro Magazine se porte très bien, les résultats et en diffusion et en publicité sont très bons. Puis il y a une diffusion absolument considérable qui n'est rien de comparable avec celle de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles fait son boulot comme il souhaite le faire. Moi, je n'ai pas à juger ce que fait Valeurs Actuelles. Ce qui est vrai, c'est que le ton qu'on a donné au Figaro Magazine comme au Figaro, ce ton du débat est un ton moins, alors si on veut le dire en négatif, on dira moins agressif, si on est côté
Valeurs Actuelles,
on dira moins percutant, on peut tout dire ce qu'on veut. Nous, on a fait un choix d'être plus fédérateur, mais les deux choix se défendent, moi j'ai pas à juger, mais notre choix, nous, c'est, je l'assume absolument, et je pense en plus y donner de très bons résultats.
Merci Alexis Brézé, enquête de Laure Mandeville en une du Figaro, Trump va-t-il gagner? Ça c'est dans les kiosques.
Remarquable livre de Laure Mandeville qui sort ces jours-ci chez Équateur.
Ce matin, on vous retrouve
là, je fais de la pub.
Dimanche chez Patricia Martin, et puis un dernier mot pour vous dire que France Inter a réalisé un très très beau score d'audience grâce à vous tous qui avez été fidèles cet été. 5 510 000 auditeurs, plus 2 millions, plus 220 000 auditeurs sur l'année. C'est formidable, merci à tous. Ali, grand bien vous fasse.
Bonjour Sonia De Villers, est-il vraiment possible de ne plus être esclave de son portable? Mais témoignez, réagissez au 01 45 24 7000.
C'est oui.